Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez fascinant où la mode rencontre la finance. C'est assez surprenant, non?
Ah oui, tout à fait.
Imaginez un peu si on vous avait dit il y a 10 ans qu'un sac Chanel, ça pourrait être un meilleur placement que l'immobilier parisien.
Et pourtant, c'est un peu la réalité que montrent nos chiffres, sur la décennie 2014-2024. On va comparer la performance de deux géants du luxe, Chanel et Louis Vuitton, comme des investissements potentiels.
D'accord.
Et vous allez voir, leur stratégie, leur résultat, c'est radicalement différent.
Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça. Pourquoi cette surperformance de Chanel? Quelles sont les logiques de marque derrière ces chiffres?
Exactement.
Et surtout, qu'est-ce qu'il faut en retenir si on pense à acheter un sac? Non pas juste pour le plaisir, mais aussi comme une ligne sur son bilan, quoi.
C'est tout l'enjeu, oui. On va regarder les chiffres clés, les stratégies bien distinctes, les raisons de ces écarts, mais attention aussi les risques, parce qu'il y en a dans ce type d'investissement un peu particulier.
Alors, allons-y. Commençons par Chanel. Les chiffres, franchement, il faut un peu tourner la tête. On parle d'un rendement annualisé moyen, donc le gain moyen par an, si je comprends bien.
C'est ça.
De 7,7% pour certains modèles iconiques entre 2014 et 2024. C'est énorme, hein?
C'est un rendement qui place effectivement ces sacs parmi les actifs de luxe les plus performants, oui. Et la clé de ça, c'est vraiment une stratégie de prix. Très contrôlée, très agressive.
Agressive, carrément. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut en retenir si on pense à acheter un sac, non pas juste pour le plaisir, mais aussi comme une ligne sur son bilan, quoi.
C'est tout l'enjeu, oui. On va regarder les chiffres clés, les stratégies bien distinctes, les raisons de ces écarts, mais attention aussi les risques, parce qu'il y en a dans ce type d'investissement un peu particulier.
Alors, allons-y. Commençons par Chanel. Les chiffres, franchement, il faut un peu tourner la tête. On parle d'un rendement annualisé moyen, donc le gain moyen par an, si je comprends bien.
C'est ça.
De 7,7% pour certains modèles iconiques entre 2014 et 2024. C'est énorme, hein?
C'est un rendement qui place effectivement ces sacs parmi les actifs de luxe les plus performants, oui. Et la clé de ça, c'est vraiment une stratégie de prix. Très contrôlée, très agressive.
Agressive, carrément. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut en retenir si on pense à acheter un sac, non pas juste pour le plaisir, mais aussi comme une ligne sur son bilan, quoi.
C'est tout l'enjeu, oui. On va regarder les chiffres clés, les stratégies bien distinctes, les raisons de ces écarts, mais attention aussi les risques, parce qu'il y en a dans ce type d'investissement un peu particulier.
Alors, allons-y, commençons par Chanel. Les chiffres, franchement, il faut un peu tourner la tête. On parle d'un rendement annualisé moyen, donc le gain moyen par an, si je comprends bien.
C'est ça.
De 7,7% pour certains modèles iconiques entre 2014 et 2024. C'est énorme, hein.
C'est un rendement qui place effectivement ces sacs parmi les actifs de luxe les plus performants, oui. Et la clé de ça, c'est vraiment une stratégie de prix. Très contrôlée, très agressive.
Agressive, carrément.
Oui, Chanel a orchestré des hausses de prix très très régulières. Parfois même deux fois par an.
Deux fois par an, ah oui.
Voilà. Avec un but assumé. Renforcer cette image d'ultra-exclusivité, de désirabilité extrême.
C'est marrant, ça semble presque aller à l'encontre de la logique habituelle, non? Plus c'est cher, plus c'est dur à avoir, et plus les gens en veulent.
C'est exactement le pari de Chanel, surtout depuis 2015, où ils ont vraiment renforcé cette politique. L'idée, c'est que posséder un sac Chanel iconique, ce n'est pas juste un achat, c'est un privilège. Et cette rareté, ben, elle est organisée, elle alimente la valeur perçue et donc, mécaniquement, la valeur de revente sur le marché secondaire.
Vous avez un exemple concret? Le Timeless, peut-être, c'est souvent celui qu'on cite.
Oui, le Timeless MM, c'est l'exemple parfait. Son prix en boutique, il est passé de, tenez-vous bien, 4 900 € en 2014 à 10 300 € en 2024.
Plus du double.
Plus de 110% d'augmentation en 10 ans. Et ce n'est pas un cas isolé, hein. Le Boy, le 2.55, classique, ils ont suivi des trajectoires similaires, souvent plus de 100% de hausse sur la période. Même le petit mini Timeless, il a plus que doublé.
C'est fou, mais bon, augmenter les prix, ça ne fait pas tout, j'imagine. Quels sont les autres leviers qu'ils utilisent pour cette stratégie d'exclusivité?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la rareté, artificielle. Ils limitent volontairement la production. Il y a des quotas très stricts en boutique, les listes d'attente sont gérées de façon assez opaque.
D'accord, pour créer le désir.
Voilà. Deuxièmement, une décision hyper importante en 2015, l'harmonisation mondiale des prix.
Ah oui. Fini le temps où on cherchait le bon plan à l'étranger.
Exactement. Fini l'arbitrage géographique. Du coup, ça a concentré la demande et ça justifie les prix élevés. Partout dans le monde.
Et le fait de ne pas vendre les sacs sur Internet, ça compte aussi.
Ah ben oui, énormément. C'est un choix radical. À notre époque.
Clairement.
En réservant l'achat des sacs aux boutiques physiques, Chanel cultive une expérience très exclusive, presque un rite de passage. Ça renforce l'aura du sac, sa valeur perçue, et puis, il faut ajouter aussi la professionnalisation de l'authentification, des outils comme Entropy. Ça sécurise le marché de l'occasion, et bien sûr, l'influence énorme des célébrités qui maintiennent une demande très forte.
Très intéressant de voir comment tout ça s'emboîte. Passons maintenant à Louis Vuitton. Là, la situation est différente, d'après ce que vous disiez.
Oui, on est sur une performance plus mesurée. Attention, ça reste très solide.
Bien sûr.
Pour Louis Vuitton, sur la même période 2014-2024, le rendement annualisé moyen, il est plutôt autour de 5,4%.
5,4%, c'est quand même un bon score, mais c'est vrai que c'est nettement moins que les 7,7% de Chanel.
Nettement moins, oui.
Et ça, c'est une stratégie différente de la part de Louis Vuitton, qui appartient au groupe LVMH, c'est ça, hein ?
Tout à fait. C'est un choix délibéré. Louis Vuitton, on pourrait dire qu'ils sont sur une stratégie de luxe accessible. Ou de démocratisation maîtrisée.
Luxe accessible.
Oui, l'accent est mis sur une présence mondiale très forte, des volumes de vente beaucoup plus importants et une innovation constante. Les augmentations de prix chez LV, elles sont plus souvent liées à l'inflation, au coût des matières premières, au lancement de nouveautés.
Moins une stratégie pure de positionnement par le prix, comme Chanel.
Voilà, exactement. C'est moins une stratégie visant l'ultra-exclusivité par le prix seul.
Du coup, c'est une approche qui favorise peut-être moins la flambée des prix, mais qui a d'autres avantages. Plus de stabilité, une revente plus facile peut-être?
C'est tout à fait ça. Le modèle Louis Vuitton, il favorise la stabilité et ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire la facilité à acheter ou à vendre rapidement. Leurs sacs sont partout, tout le monde les connaît. Prenez le Neverfull MM en toile monogramme.
Oui, le best-seller. Voilà. Comparons-le au Timeless, justement.
Alors, le Neverfull MM, il est passé de 890 € en 2014 à 1 500 € en 2024.
D'accord.
c'est une hausse de 68,5%. C'est bien, hein, mais on est loin des plus 110% du Timeless de Chanel.
Ah oui, la différence est nette.
D'autres modèles comme le Speedy 30 ou même le Capucines qui est plus cher ont bien augmenté aussi, souvent autour de plus 80%, plus 90% sur 10 ans. Mais sans attendre les sommets de certains Chanel.
Qu'est-ce qui caractérise la stratégie de Louis Vuitton pour expliquer cette croissance plus régulière mais moins explosive?
Louis Vuitton y mise sur une croissance globale, continue. Ils sont très très forts en innovation. Les collaborations artistiques qui font beaucoup de bruit, Murakami, Kusama, Kunz.
Oui, on s'en souvient.
Le lancement régulier de nouvelles lignes qui cartonnent. Le Twist, le Capucines, le Hunt to Go. Ils maîtrisent parfaitement la com digitale, le e-commerce. Et puis, point crucial, la production. Elle est beaucoup plus importante, plus flexible. Elle s'ajuste à la demande.
Vous avez une idée des volumes ?
Les estimations tournent autour de 750 000 sacs par an pour Louis Vuitton, contre environ 120 000 chez Chanel.
Ah oui, ce n'est pas du tout la même échelle ?
Non. Et cette disponibilité, forcément, ça limite l'effet de rareté extrême qu'on trouve chez Chanel.
Et leur réseau de boutiques est beaucoup plus grand aussi, j'imagine.
Exactement. Plus de 460 boutiques dans le monde pour LV, contre environ 310 pour Chanel. Sans compter la vente en ligne chez LV, qui n'existe pas pour les sacs Chanel.
D'accord.
Donc cette accessibilité, c'est un atout commercial énorme, mais ça freine un peu la spéculation qu'on observe chez Chanel.
Si on met les deux stratégies en perspective maintenant, cet écart de performance, presque 40% de différence en rendement annualisé, 7,7% contre 5,4%, ça illustre vraiment deux philosophies du luxe, quoi.
Oui, c'est ça. D'un côté, on a l'ultra-exclusivité presque artistique de Chanel. Certains sacs deviennent des objets de collection très, très recherchés.
Mmh.
De l'autre côté, on a le luxe statutaire, mais beaucoup plus diffusé, de Louis Vuitton. Eux, ils misent sur la désirabilité à grande échelle, la puissance industrielle. Et pour quelqu'un qui voudrait investir, bah, ça donne un profil risqué-rendement très différent.
Revenons à notre comparaison Timeless contre Neverfull. Juste pour résumer les chiffres clés.
Alors, sur 10 ans, le Timeless, c'est plus 110% de rendement total. Un gain absolu de 5 400 € sur un prix initial de 4 900 €. Mais attention, avec une volatilité, des fluctuations de prix plus fortes.
D'accord. Et le Neverfull ?
Le Neverfull, c'est plus 68,5% de rendement. Un gain absolu de 610 € sur un prix initial de 890 €. Avec une volatilité plus modérée, plus stable.
L'investissement de départ n'est pas le même, c'est sûr, mais l'écart de gain est spectaculaire. Et si on replace ces chiffres par rapport aux placements plus classiques, sur la même période 2014-2024 ?
Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après les données qu'on a pu compiler, le CAC 40, par exemple, a fait un peu mieux que le Timeless, environ 8,2% par an.
Pas mal.
Mais ensuite, on a le Timeless à 7,7%, qui devance le Neverfull à 5,4%. Et ces deux sacs font mieux que l'immobilier parisien.
Ah oui.
Qui tournait autour de 4,5% par an sur cette période. Mieux que l'or, environ 3,2%, et bien sûr beaucoup mieux que les placements sans risque, comme le livret A, autour de 1,8%.
Donc concrètement, acheter un Timeless il y a 10 ans, ça aurait été plus rentable que d'acheter de l'or ou même un appart à Paris.
Ça bouscule un peu les idées reçues sur les investissements sérieux, ça, effectivement. Ça positionne clairement certains sacs de luxe comme des actifs alternatifs. Potentiellement très performant. Et j'ajoute un petit détail non négligeable. La fiscalité.
Ah oui.
En France, pour la revente de biens de collection, il y a un abattement sur la plus-value de 5% par an après 2 ans de détention. Ce qui mène à une exonération totale d'impôt sur la plus-value après 22 ans.
Intéressant. Creusons encore un peu les raisons de cet écart Chanel-LV. Qu'est-ce qui donne cet avantage, disons structurel, à Chanel dans cette course à la valeur ?
C'est vraiment une combinaison de facteurs. Nos sources parlent d'un cercle vertueux de l'ultra-exclusivité. On a déjà parlé de la politique de prix agressive, de la rareté organisée,
oui.
De la distribution limitée, pas de vente en ligne, qui sanctuarise l'achat en boutique. Mais il faut ajouter aussi un héritage de marque extrêmement fort, un capital sympathie intergénérationnel très puissant chez Chanel. Et puis, cette uniformisation des prix mondiaux depuis 2015, ça a vraiment concentré la demande et renforcé l'idée d'un prix juste, même s'il est très élevé.
Et à l'inverse, qu'est-ce qui freine Louis Vuitton dans cette course à la performance financière pure, même s'ils ont un succès commercial incroyable ?
Ben, c'est un peu le revers de la médaille de leur stratégie. L'accessibilité, même si elle est contrôlée, ça limite la formation de bulles spéculatives.
D'accord.
Ils cherchent un équilibre entre la disponibilité et le désir. Pour satisfaire une clientèle large, plutôt que de frustrer pour faire monter les prix. La production énorme aussi, ça empêche les tensions extrêmes sur le marché de l'occasion.
Moins de rareté, moins de spéculation?
C'est ça. La diversification constante des produits peut aussi peut-être diluer un peu l'aura des très grandes iconies historiques. Et leur communication, très présente, très digitale. C'est super efficace commercialement, mais ça démystifie peut-être un peu la marque, comparé au silence très calculé de Chanel.
Et vous parliez d'une petite différence qui persiste sur les prix chez LV?
Oui. C'est un détail, mais contrairement à Chanel qui a vraiment tout unifié, Louis Vuitton garde quelques légers différentiels de prix selon les pays. Pour un voyageur très averti, il peut encore y avoir de petites opportunités d'achat à l'étranger. Moins qu'avant, mais ça existe encore un peu.
Bien sûr. Qui dit investissement, dit aussi risque. Quels sont les pièges si on décide de miser sur Chanel?
Alors, le risque principal qui est souvent mentionné, c'est celui d'une bulle spéculative. Les prix ont tellement grimpé, est-ce que ça peut continuer indéfiniment? Est-ce qu'on n'approche pas d'un plafond, voire d'une correction?
La question se pose.
Oui. Et puis, la valeur de ces sacs est très liée aux décisions stratégiques de la maison Chanel. Un changement de cap artistique, marketing, ça pourrait avoir un impact. La contrefaçon aussi, qui est de plus en plus sophistiquée, c'est une menace.
Toujours.
Le risque lié à la mode, aux tendances qui changent, et enfin, il ne faut pas oublier les coûts cachés.
C'est-à-dire?
L'assurance, le stockage dans de bonnes conditions, l'entretien. Ça peut représenter facile 2 à 4% de la valeur du sac chaque année. Ça grignote le rendement.
2 à 4% par an, ce n'est pas négligeable du tout. Et pour Louis Vuitton, les risques sont du même ordre.
Le profil de risque est généralement vu comme plus faible chez LV. Leur gros avantage, c'est la stabilité, la prévisibilité. Et surtout, la liquidité.
C'est plus facile à revendre.
Beaucoup plus facile. Il y a un marché énorme et très actif pour les sacs LV d'occasion. La reconnaissance mondiale de la marque assure une demande de fonds très solide. La qualité de fabrication est aussi reconnue, ce qui joue sur la durabilité. Et puis la grande diversité de modèles permet de répartir un peu les risques si on collectionne.
Et même les assureurs semblent voir les choses comme ça, d'après les primes.
C'est un bon indicateur, oui. Les sources indiquent qu'assurer une collection Louis Vuitton coûte environ 1 à 3% de sa valeur par an, contre 2 à 4% pour Chanel. Ça reflète bien une perception du risque plus élevé pour Chanel, liée à la volatilité des prix, mais aussi peut-être à une plus grande attractivité pour les vols ou les dommages, vu la valeur.
Projetons-nous un peu pour finir. Comment les experts voient l'avenir pour ces deux maisons en tant qu'investissement? D'abord pour Chanel.
Alors, l'idée générale, c'est qu'on va vers une modération de la croissance des prix après une décennie un peu folle.
On calme le jeu.
Voilà. Les rendements futurs pourraient se tasser un peu, peut-être autour de 4 à 6% par an, ce qui resterait excellent. Hein.
Oui, tout à fait.
Mais on approche de seuils psychologiques importants. La barre des 10 000 euros pour un Timeless classique, par exemple. La demande des marchés émergents, surtout l'Asie, devrait continuer à soutenir les prix. Après, il faudra surveiller l'évolution de la réglementation, la fiscalité et bien sûr la gestion de la création après Virginie Viard.
D'accord.
Paradoxalement, d'ailleurs, une certaine prudence créative pourrait même renforcer la valeur des grands classiques indémodables.
Et pour Louis Vuitton, quelle est la tendance attendue?
Là, on s'attend plutôt à la poursuite d'une croissance régulière, plus stable, peut-être dans une fourchette de 3 à 5% par an.
Une trajectoire plus linéaire.
C'est ça. Alimentée par l'expansion géographique qui continue, l'innovation produit, leur forte capacité d'adaptation au digital, aux jeunes générations, les collaborations artistiques ponctuelles, ça va continuer de créer des pièces désirables en édition limitée. Et puis, il y a des relais de croissance possibles en Afrique, en Amérique latine, et un accent de plus en plus mis sur la durabilité, ce qui répond à une vraie attente.
Et vous mentionniez l'importance du marché de la seconde main.
Ah, vous, c'est un élément clé pour l'avenir des deux. Ce marché explose littéralement. On parle de 77 milliards de dollars d'ici 2025, avec une croissance de 15% par an.
Impressionnant.
Cet essor, ça renforce énormément la liquidité de ces sacs, et donc leur crédibilité comme NFT, comme actif potentiel.
Bon, alors, si on devait résumer les points essentiels de cette comparaison...
En gros, sur la dernière décennie, Chanel a offert un rendement financier bien supérieur à Louis Vuitton. 7,7% contre 5,4% par an en moyenne, grâce à une stratégie très audacieuse d'ultra-exclusivité. Ça a transformé ces sacs iconiques en objets de collection, voire de spéculation.
Mais, il y a un mais, cette performance s'accompagne d'un risque plus élevé.
Exactement. Plus de volatilité des prix, une forte dépendance aux choix stratégiques de la maison Chanel, des coûts de détention plus importants. Louis Vuitton, avec son approche plus équilibrée, offre en face plus de stabilité, une bien meilleure liquidité et une plus grande prévisibilité.
Donc, le choix entre les deux dépend vraiment du profil de l'investisseur, si on peut dire?
Tout à fait. Ça dépend de son goût pour le risque, du capital qu'on peut mettre au départ, l'entrée est beaucoup plus chère chez Chanel, de son horizon de temps, de ses objectifs. Il n'y a pas de meilleur investissement dans l'absolu.
Une suggestion intéressante que j'ai vue dans nos sources, c'était d'envisager une approche mixte, si on veut se créer un portefeuille de sacs de luxe.
Ah oui, c'est-à-dire.
Une part minoritaire en Chanel, disons 30 ou 40%, pour essayer de capter ce potentiel de plus-value élevé, et une part majoritaire en Louis Vuitton, 60 ou 70%, pour la stabilité et la facilité de revente. Qu'en pensez-vous?
C'est une piste de diversification qui peut avoir du sens, effectivement. Ça permettrait de chercher un peu plus de performance avec Chanel, tout en limitant le risque global grâce à la solidité de Louis Vuitton. C'est une approche prudente, mais potentiellement intéressante.
Pour conclure, peut-être une réflexion qui dépasse un peu les chiffres. Au-delà du rendement financier pur, comment est-ce que la dimension émotionnelle, le plaisir de posséder, de porter un objet aussi iconique, aussi chargé d'histoire, comment ça influence la décision et même la perception de cet investissement?
Ah, c'est une question essentielle, oui. Ça nous rappelle qu'on parle avant tout d'objets de passion, d'objets de désir, avant d'être des lignes dans un tableur Excel. Cette valeur immatérielle, ce rendement émotionnel, comme on pourrait l'appeler, il est sans doute tout aussi important pour beaucoup de gens que la performance financière, peut-être même plus parfois.